Il est 8h16, l'interview politique sur Europe 1. François Geffrier, vous recevez Stéphane Séjourné, député européen Renaissance, ancien conseiller d'Emmanuel Macron.
Bonjour Stéphane Séjourné.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Bon, on peut dire que ça ne nous avait pas vraiment manqué, hein, des sommets interminables, des journées cruciales qui succèdent à des nuits cruciales. Je rappelle l'enjeu, là, en ce moment, à Bruxelles, 750 milliards d'euros de plan de relance. Est-ce que la France et l'Allemagne ont cru que ce serait trop facile?
Non, je pense pas. Je pense que d'abord, le président de la République et la chancelière Angela Merkel ont bien fait, ont eu la bonne intuition de proposer un pré-accord. On voit bien la difficulté là de trouver un accord commun, et on voit bien la difficulté du coup d'avoir un compromis avec 27 États membres. Et s'il n'y avait pas eu cet accord, en réalité, entre la chancelière et le président de la République française, je pense qu'on ne serait pas là à discuter d'un sommet qui dure et qui d'ailleurs, je crois, est historique, puisqu'on va dépasser le temps qui avait été mis pour trouver un accord à Nice pour le traité. Donc, premier point, je pense que l'intuition
en tout cas,
des deux chefs d'État était la bonne, en tout cas, de proposer cet accord. Sur le fond, évidemment, l'enjeu est important. Et ce qu'il faut retenir de ces deux jours et de ces nuits de négociation, c'est que le président de la République et la chancelière ne veulent pas d'un accord au rabais. Et
on voit bien. Attendez, vous parlez d'accord au rabais. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'est plus sur 500 milliards d'euros de subventions, qui était le chiffre proposé par Angela Merkel et Emmanuel Macron, on est sur 390 millions. Ça, un petit cinquième, un gros cinquième en moins. Et ça y est, on a un petit peu cédé sur l'ambition européenne dont Emmanuel Macron faisait son cheval de bataille hier.
C'est de toute façon un consensus entre les 27. On a 26 pays derrière nous. Il y a eu un travail énorme qui a été fait depuis des semaines et des semaines. J'y ai participé d'ailleurs en tant que parlementaire européen avec des chefs de parti, d'autres États membres à convaincre sur ce sujet. On a 26 pays derrière nous. Il y en a 4 qui bloquent. Évidemment, derrière, il y a des enjeux locaux et des enjeux nationaux pour eux. Il ne faut pas être dupe. Hein. Les Pays-Bas ont des élections dans 8 mois. Marc Rutte est aussi flat.
Premier ministre des Pays-Bas joue un rôle central. Là.
Voilà, et donc évidemment c'est difficile à avoir un accord, mais le sujet européen ne peut pas être remis au rabais, et donc le président de la République a décidé de faire durer ces discussions. Je pense qu'il a bien fait. On verra. À 14h, il y a une nouvelle proposition qui sera faite d'ailleurs par le président du Conseil européen. Une discussion à 16h, et puis en espérant justement avoir un plan de relance assez ambitieux. Derrière, c'est pas que un montant, c'est aussi la capacité de l'Europe à rebondir dans cette crise, à préserver des emplois, à réorienter son industrie, parce que derrière on aura aussi des conditionalités environnementales.
Mais d'où l'intérêt que le plan soit...
Il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent derrière ce plan de relance.
D'où l'intérêt qu'il soit à la hauteur
du stimulus économique.
Hein. Stéphane Séjourné, pour que ça bloque à ce point-là, c'est que la proposition de base, notamment l'idée de faire des subventions et non pas seulement des prêts à des pays sans qu'ils doivent donc le rembourser, cette idée-là est rejetée. Ou est-ce que c'est tout simplement une histoire de curseur, de négociation, de virgule?
L'idée n'est pas rejetée, justement. On a réussi à convaincre. D'abord,
qu'un sommet dure 3 jours, 3 nuits.
Les pays frugaux étaient contre toute levée de dette commune. On a levé d'ailleurs cette hypothèque. Dans un deuxième temps, ils étaient contre tout transfert d'argent. Ils étaient pour uniquement des prêts. On a levé également cette hypothèque. Là, on est en train de discuter du montant et de l'ambition.
Donc là, vous nous dites qu'on est sûr qu'on va atterrir sur un accord, quitte à ce que le chiffre soit plus bas.
Je ne fais pas partie de la discussion finale. Mais en tout cas, vous voyez bien que si on était dans une position de repli, on aurait arrêté les discussions hier. Donc il y a une volonté, à la fois des deux parties, de trouver un point d'atterrissage. Je pense qu'il ne faut pas renier l'ambition de ce plan de relance. Derrière, le Parlement européen aura aussi à s'exprimer sur le budget européen, puisque les deux plans de relance et budget européen sont en discussion en ce moment. Et par ailleurs, peut-être que le Parlement européen pourra aller peut-être au-delà. On verra. Mais je pense que cette situation n'est pas encore totalement définitive. Les mois et les semaines aussi qui viennent seront aussi l'adaptation du curseur qu'on pourra avoir, nous.
Mais ce sommet qui est bloqué, qui dure des jours et des nuits, on ne sait pas comment les gens tiennent sur place, en dormant peut-être entre deux portes, est-ce que ce n'est pas une nouvelle fois le signe qu'il faut changer la façon de faire dans ces sommets ou dans l'Union européenne, quitte à ne pas tout faire tous ensemble?
Si, on avait y compris pendant toute la campagne électorale sur les européennes fait des propositions il y a un an sur la gouvernance. On voit bien que le Conseil est ingouvernable. L'unanimité est compliquée. Le problème de l'unanimité, c'est qu'il faut se mettre d'accord à l'unanimité pour décider à l'unanimité d'arrêter l'unanimité. Donc c'est ça la difficulté pour nous. Mais on a fait des propositions. Je pense que notamment le président de la République avait évoqué une grande conférence sur l'avenir de l'Europe pour justement redéfinir les éléments de gouvernance. Parce qu'on voit bien que la difficulté pour nous, c'est d'arriver à un accord assez rapidement au-delà de toutes ces tergiversations pendant des nuits et des nuits. Après, il faut aussi regarder les choses. Où est-ce que dans le monde, on arrive à 27 pays en l'espace de 3, 4 nuits, 5 jours de discussion, à se mettre d'accord sur un tel montant? Ça n'existe nulle part.
Pour l'instant, on n'est pas d'accord.
Non, mais ça n'existe nulle part. Le projet européen est quand même un projet qui est exceptionnel en ça qu'il arrive à mettre d'accord un certain nombre de pays sur un consensus. Donc,
mais là, on n'est pas parti pour arrêter avec l'unanimité, puisque le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, voudrait que, quasiment pour débloquer chaque petite tranche d'aide de ces fameux milliards qui vont s'additionner pour chaque pays, il faudrait, à ce moment-là, débloquer à nouveau une unanimité, en tout cas... Chaque pays aurait un droit de veto, ce qui revient au même.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, le Conseil est devenu ingouvernable. Au Parlement européen, ça se passe différemment. Vous voyez bien qu'on traite sur des majorités. On trouve des majorités, il y a des majorités, des oppositions. Les éléments sont votés. Et donc, il faudra revoir ça et tirer des enseignements, évidemment, de tous ces sommets européens. On l'avait dit déjà pendant les Top Jobs. Vous rappelez, il y a quelques mois, on avait des nuits de discussion pour savoir qui allait au Conseil, qui allait au Parlement
les
européen.
Les portefeuilles de commissaires,
etc. Les
gros
portefeuilles de commissaires européens.
La Banque centrale.
À chaque sommet et à chaque réunion du Conseil, on se dit exactement la même chose. Je pense que maintenant, il est temps d'agir et il est temps de faire des propositions, notamment pour trouver une gouvernance qui ne donne pas ce spectacle-là.
Là, on parle seulement, si j'ose dire, de 750 milliards. Qu'en sera-t-il des 1100 milliards d'euros de budget européen pour 2021-2027? En fait, dès qu'on parle d'argent dans cette famille européenne, comme dans peut-être toute famille, c'est là que les ennuis commencent.
C'est toujours le problème des budgets. Et par ailleurs, dans les débats nationaux de politique nationale, vous avez exactement les mêmes problématiques d'orientation. Derrière le budget, c'est une politique. Et donc, en fonction de ce qu'on choisit d'augmenter, de descendre, et ben derrière, il y a des politiques publiques. Je pense que le Parlement européen aura un mot à dire sur le budget, parce qu'aujourd'hui, la discussion des chefs d'État et de gouvernement a lieu sur deux éléments. À la fois le budget extraordinaire, ce plan de relance, et en même temps le budget ordinaire de l'Union européenne. C'est 1000 milliards d'euros que le Parlement européen veut évidemment flécher sur tous les enjeux du 21e siècle, la réorientation environnementale, et par ailleurs mon groupe politique est très enclin là-dessus et très en pointe là-dessus, tous les sujets de réorientation industrielle aussi, je pense notamment tous les sujets éducation, le doublement d'Erasmus qui étaient des priorités de campagne pour nous. Donc
Bon, tout ça, pour l'instant, c'est un peu paralysé. Et
on
d'ailleurs,
aura un mot à dire là-dessus, plus qu'un mot à dire, le Parlement européen est le 28e. Et donc, il y aura une discussion avec le Parlement européen dans les prochaines,
prochaines
semaines.
Tout ce temps qu'on passe à discuter, c'est quand même des chefs d'État et de gouvernement, ils ont peut-être autre chose à faire que passer leur week-end et plus fin de semaine, début de semaine à Bruxelles. Pendant ce temps-là, l'Europe oublie aussi un petit peu de s'occuper de la crise sanitaire alors qu'on reconfine ou qu'on pré-reconfine, pour employer cette expression barbare, notamment à Barcelone. Est-ce que cette compétence de la santé qui aujourd'hui n'est pas occupée par l'Union européenne ne peut pas être là quelque chose de concret aussi pour les citoyens, de visible, qui montre que l'Europe peut fonctionner?
Si, derrière d'ailleurs le projet qui est en discussion là, il y a l'objectif de faire une Europe de la santé. Vous savez, on a énormément d'agences sanitaires en Europe qui n'ont pas servi à grand-chose pendant cette crise. L'idée, c'est de recouper leurs compétences, de les fusionner, d'en faire une vraie compétence européenne, de trouver évidemment des coordinations entre nous pour justement être plus efficaces. On voit bien que l'Europe a ramé au tout début. Et d'ailleurs, l'objectif de finir sur une crise où il y a une réponse économique est très très important pour ceux qui croient au projet européen comme moi. Et donc, j'espère vraiment qu'il y a un accord qui soit ambitieux et que on trouve des solutions aux Européens et aux Français qui vont être confrontés au chômage. Donc, vous voyez que sur la question sanitaire, ça va être un élément qui est important et qui va être déterminant dans les prochaines semaines, avec évidemment un grand chantier, l'Europe de la santé et la coordination dans les nouvelles crises sanitaires qui risquent de survenir, puisque le coronavirus, pour le coup, est toujours actif sur notre territoire et partout en Europe d'ailleurs.
Et tout ça est suspendu à ce qui se passe ou ce qui se passera ou ce qui cassera à Bruxelles cet après-midi, reprise des discussions à 16h. Merci Stéphane Séjourné.
Merci à vous.
Invité politique d'Europe 1 ce matin, bonne journée.